parfois déguisé en trader, en agriculteur ou encore en athlète olympique. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé sentir la magie des métiers. En grandissant, j'ai pourtant appris qu'il est difficile de choisir le bon costume qui guidera notre vie professionnelle. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de créer MC Talks. Bienvenue dans un univers où je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités au parcours atypique et quelquefois étonnant.
Bonjour Marvin,
comment ça va?
Ça va très bien et toi?
Ouais, ça va bien. Je te le disais juste avant, je pense que les gens vont prendre pour un alcoolique. Parce qu'il me semble que t'aimes bien la bière, là tu m'as servi une petite bière en arrivant.
Parfait.
C'est de ça dont on va parler, j'imagine, non?
Bah j'espère, je vis un peu pour ça, tu sais.
Bah dis-nous justement, qu'est-ce que tu fais sur Terre? Qui es-tu?
Qu'est-ce que je fais sur Terre? Actuellement, est-ce que tu veux aussi une petite genèse à tout ça?
Ouais, vas-y, je te pose. Qui es-tu sur Terre? Okay. Je te laisse la créativité.
Bah, je vais commencer juste alors dans l'instant présent, parce que ça reste le plus important aussi. Là. Aujourd'hui, là, je travaille dans une microbrasserie. En tant que comptable principalement, et une deuxième activité aussi dans cette microbrasserie, c'est avec l'aide des deux propriétaires, on a monté une autre boîte à côté,
okay,
qui fait de la représentation commerciale pour plusieurs autres microbrasseries. Donc en fait c'est une mutualisation pour externaliser ce service là, et donc ça reste quand même dans la bière. Donc là-dessus j'ai aussi du travail là-dedans, donc vraiment comptabilité dans la microbrasserie, et après là je suis vice-président dans cette entreprise là, et je m'occupe surtout aussi de tout ce qui est finance et comptable là-dedans. Mais la chose la plus intéressante, c'est qu'on fait tout ça autour de la bière, et ça c'est vraiment chouette, parce que c'est derrière avec tout ça, moi j'emmagasine beaucoup de connaissances, d'informations et de relations avec des gens très sympas pour faire mon projet plus tard, qui sera d'avoir ma propre microbrasserie aussi. Et donc la chose aussi, je pense, qui fait que t'es avec moi aujourd'hui, c'est parce que j'ai un parcours qui me prédestinait pas à ça.
Bah oui, c'est ça, parce que moi on m'a dit il est vétérinaire. Enfin, il était vétérinaire, donc je me suis dit il était vétérinaire. Un vétérinaire, ça soigne des animaux. Et là, toi, tu fais de la bière. Donc peut-être qu'on va revenir sur la bière après, mais dis-nous déjà d'où tu. Moi, je sais rien de plus que toi. Moi, je sais juste que c'est un vétérinaire qui fait de la bière.
Ouais. C'est
Est-ce
ça.
Que t'as un truc Qu'est-ce qui s'est passé là? Où t'as commencé?
J'ai commencé, je suis docteur vétérinaire. Ça m'a demandé beaucoup d'abnégation pour aller jusqu'à ce doctorat, parce que c'est. Je me suis rendu compte au fil de mon parcours que c'était pas ça qui me rendait le plus heureux. Et vraiment ce constat-là un peu brutal, je me le suis fait en milieu de première année de vétérinaire.
Très tôt.
Assez tôt dans le cursus quand même. Parce que là, juste pour situer un petit peu, vétérinaire, c'est minimum 7 ans d'études, 2 ans de classe préparatoire pour faire le concours national,
okay,
et après 5 ans d'école.
Okay.
Donc c'est 7 ans minimum. Et du coup, la deuxième année et demie, je me suis dit que ça correspondait pas exactement à au fantasme que j'en avais, on va dire. Et dans un milieu qui est ultra sympa aussi quand même. C'est vrai que mes vétérinaires, c'est une bulle avec des gens qui sont qui ont une culture très forte aussi, qui est vraiment impressionnante. On pourra peut-être revenir aussi là-dessus par la suite. Mais c'est pas juste ça qui me donnait mon plaisir.
C'était quoi ce fantasme? Là, tu parles de fantasme.
En fait, moi, à mes yeux, le métier de vétérinaire, c'était le métier le plus complet du monde. Dans le sens où tu comprends le fonctionnement d'un corps, donc t'as un niveau scientifique et technique vachement élevé, parce que tu fais aussi des opérations, de la médication, toutes les thérapies, etc. Donc là, ce côté nourriture intellectuelle très technique, je l'avais avec ça. Après, c'est l'aspect libéral, dans le sens où aussi t'es ton propre chef, t'as ta propre structure clinique, tu peux t'associer aussi, faire peut-être plus qu'un cabinet, mais une vraie clinique avec beaucoup de services de soins. Niveau entrepreneurial, t'as tous les outils pour t'amuser là-dessus, en développant de manière gestionnaire et administrative une structure comme ça. Et après, c'est l'aspect technique et l'aspect entreprise et gestion qui me plaisait énormément.
Okay.
Et en fait, les choses où j'ai été déçu, disons, c'est que cet aspect déjà gestion, chef d'entreprise et libéral, c'est pas du tout dans l'état d'esprit de la formation et de mes camarades.
Okay.
Moi c'est vraiment quelque chose qui me plaisait, mais c'est normal aussi que la plupart des vétérinaires c'est pas quelque chose qui les éclate, et il se trouve que c'est vraiment pas une chose qui les éclate non plus. Et après, dans l'aspect purement technique aussi, c'est que pendant les 2 ans de classe préparatoire, on fait quand même pas mal de mathématiques, de physique, de chimie, où là il y a un mode de raisonnement très scientifique où t'as des modèles, et après tu dois toi te trouver la solution et entre guillemets un petit peu créer pour trouver la solution à tes problèmes et aller de l'avant. Que tout ce qui est biologie et sciences qui sont empiriques comme ça, c'est vraiment l'expérience qui te donne qui te dit comment ça marche, comment ça fonctionne, et à la fin tu te retrouves pas à créer mais plus à calquer, à réparer. Donc t'appliques des choses qui ont déjà été faites avant et tu les réappliques un petit peu à ta sauce comme ça directement.
Okay.
Donc là si je peux dire de manière très concise là ce qui m'embêtait à ce point-là précis, c'est que moi, ce qui m'éclate, c'est plus de créer. Et en tant que vétérinaire, t'es plus là pour réparer, peut-être.
Ok. Donc, ah, ok, ok, je vois, oui.
Je sais pas si je suis clair là-dessus.
Ouais, ouais. Ouais, bah, moi, le métier de vétérinaire, je vois comme métier de vétérinaire. Tu vois, moi aussi, je parle vite. Le métier de vétérinaire,
Je te comprends.
Comment? C'est moi qui parle vite et pas toi.
Ça me va très bien, moi, je...
Le métier de vétérinaire, pour moi, c'est plus de la réparation que la création, ouais.
C'est ça.
Mais est-ce que t'as pensé à d'autres métiers, peut-être?
Ah, dans le monde de la santé animale?
Au moment du baccalauréat, c'est ça, tu voulais créer, en fait, tu voulais,
Moi, je me rendais pas compte à ce point-là, non?
Ouais.
Moi, là, les métiers qui m'intéressaient le plus au moment où tu dois faire le choix des études supérieures, c'est, soit médecin en humaine, soit dans le monde vétérinaire, et ce qui m'a plus porté dans le monde vétérinaire, cet aspect-là plus libéral aussi, dans le sens où t'as plus de liberté d'avoir et de possibilités entrepreneuriales en tant que vétérinaire qu'en tant que médecin,
ouais.
En humaine, à mes yeux. Et autre chose, c'était quoi aussi? C'était que, en tant que vétérinaire, tu peux toucher à tout, que ce soit la chirurgie sur les tissus mous, sur les
ouais,
os, ou même, la médecine générale, et après plein de choses différentes. Quand en médecine humaine, tu dois être très spécialisé. Donc, c'est vrai qu'ils font des choses, d'un niveau où la médecine vétérinaire n'est pas capable de faire. Mais en tant que vétérinaire, on peut toucher à plein de choses et avoir du coup cette petite diversité intellectuelle qui m'attirait peut-être plus à l'époque.
Mm-hmm.
Et même toujours aujourd'hui, je pense que ça, cet argument me tient toujours dans mon cœur, mais il manquait quelque chose à la fin, finalement.
Et donc, au bout de 2 ans et demi, tu t'es rendu compte que c'est pas fait pour toi, faire autre chose.
Ouais.
Donc, t'as arrêté complètement ou t'as quand même continué?
C'était la grande crise existentielle de ma courte vie jusqu'à présent. Et c'est vrai que c'était difficile parce que j'étais pas heureux là-dedans et je voyais pas de porte derrière pour qui me rendrait heureux dans cette voie toute tracée. Une fois qu'on est dans le club vétérinaire, c'est tout tracé, on finit vétérinaire. Après, il y a une variété de travail dans le monde vétérinaire, mais ça reste très santé animale, enfin évidemment, mais très aussi dans un milieu humain qui est très chaleureux, mais dans lequel professionnellement et intellectuellement, je me sentais pas bien. Crise existentielle où j'ai beaucoup parlé avec mes parents, des anciens profs de prépa, etc., pour dire j'aimerais repartir peut-être plus dans une école d'ingénieurs, des écoles d'ingénieurs auxquelles j'étais admis après le concours. Et du coup, j'ai fait les démarches. L'Agroparitech, ma femme Annelle, elle a fait l'Agroparitech aussi, qui est une grande école pour tout ce qui est ingénieur agroalimentaire. Et en étant admis, j'avais fait le choix du coup de l'école vétérinaire. C'était un choix difficile à cette époque-là et juste après, je l'ai regretté. Mm-hmm. J'ai contacté les dirigeants et le président de l'époque d'Agroparitech pour savoir si il était possible pour moi de rentrer dans le cursus, etc. Parce que j'avais été admis au concours et est-ce qu'il y avait des passerelles, genre de choses que je pouvais faire pour y revenir. Et non, finalement, non, c'était
non,
pas possible.
Pas voulu.
C'est ça. Donc, l'autre chose que j'avais fait, j'avais fait commencer les démarches dans une école post-bac, plus généraliste aussi, d'ingénieur à Lille, pour voir si je pouvais peut-être rentrer là-bas parce que voilà. Et j'ai pas été au bout de ce cursus-là. De ce processus, mais apparemment, je pense que j'aurais pu repartir là-bas. Mais c'est en discutant avec tout le monde m'a dit, vétérinaire, c'est vraiment difficile d'y rentrer. Là, une fois que j'y suis, c'est 4 ans et demi minimum, mais au bout de 4 ans et demi, il faut le faire parce que là, ton diplôme vaudra quelque chose.
Ouais.
Va jusqu'au bout, te pose pas de questions et après, tu verras, tu pourras peut-être transformer ce diplôme en autre chose qui te plaira, quoi.
Donc, t'es allé au bout.
Je suis allé au bout, j'ai écouté ce que m'a dit mon entourage. C'est pas des années perdues, c'est pas des années de regrets aussi parce que j'ai quand même fait des rencontres formidables. Enfin, les vétérinaires, c'est comme, j'ai comme de très 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 grands amis, mes meilleurs amis qui font partie de ce monde-là, qui sont toujours là-dedans. Et après, j'ai appris des choses aussi. Comment ça fonctionne un corps, maintenant, je sais comment ça fonctionne. J'ai quelques notions pour réparer. Après, ne me donne pas tes animaux parce que...
C'est ça. Là, t'es en train de prendre un chat dans les mains, là. Je sais pas ce que tu vas lui faire.
C'est Serge, c'est mon chat, qui a fait toutes ses études vétérinaires aussi avec moi. Donc, il est aussi diplômé que moi.
Il a voyagé avec toi, en plus.
Ouais, il a voyagé, il a fait traverser l'Atlantique. Ouais. Enfin, je reste amoureux des animaux aussi. Il y avait cet aspect-là aussi qui était important, mais.
Ouais, c'est ça, parce que t'en parles pas depuis tout à l'heure, mais c'est quand même, je sais pas, j'imagine que quelqu'un qui devient vétérinaire, il adore, il aime les animaux, c'est une passion pour lui.
C'est ça.
Donc t'as devenu cette passion, quand même. Enfin, cet amour.
J'ai cette passion-là. Après, ma passion, je trouve qu'elle s'est vite fait éclipser par l'amour de notre camarade envers les animaux, qui sont encore plus incroyables et plus fortes que ça. Mais c'est vrai que moi, dans ma tête, le côté passion des animaux, ça suffit pas pour vraiment être vétérinaire. Dans le sens, c'est quand même pas mal de choses aussi à prendre en compte derrière aussi. Mmh. Puis même, soigner des fois, là, les animaux, ils comprennent pas qu'on les soigne. Donc, des fois, gérer des animaux stressés, tu dois les stresser pour faire des soins dessus. C'est quand même compliqué. Donc, juste l'amour animal, je pense que ça suffit pas pour faire un vétérinaire.
D'accord.
D'ailleurs, là, si on en parle tout à l'heure aussi, si on parle de mon projet microbrasserie dans le futur, ça tourne un petit peu.
Ah, mais c'est vrai. Ouais. Justement, donc après, t'as ton diplôme de vétérinaire, alors,
ouais.
Finalement. Tu te retrouves diplômé à Lille? Non, pas à Lille. Non,
c'est à Maison-Alfort, c'est à côté de Paris.
Ok, à côté de Paris. Et donc, mais tu veux pas devenir vétérinaire? Donc là, tu t'étais pas stressé quand même. Tu dis j'ai un diplôme, mais c'est pas ce que je veux faire.
Bon, en fait, j'ai trouvé la solution entre guillemets avant de finir mon diplôme. C'est en deuxième, enfin en première année d'école vétérinaire. Là, les cours m'intéressaient pas et il y avait pas de solution qui me plaisait. Donc en fait, là, je me suis investi dans les associations étudiantes. Mmh. Bah, celle qui était le plus active, il y avait plus de choses à faire, c'était le cercle des élèves, qui est l'équivalent d'un bureau des élèves, un BDE.
Okay.
Donc c'est tout ce qui s'organise, enfin tout ce qui est autour de la vie étudiante, les soirées, gestion aussi des autres clubs, etc. Et là-dedans, j'ai été élu pour et après nommé au poste de co-responsable partenariat avec une autre personne qui était dans les années d'au-dessus. Et c'était riche aussi comme formation là, c'était quand même assez sympa. Là, c'est la deuxième fois que je me suis cassé les dents, et après, entre guillemets, c'était que du bonheur. Mais là, je vais redire encore quelques trucs qui fait que j'ai pas fait les 2 ans de mandat que la plupart des gens font au BDE, au cercle des élèves, parce que c'était aussi très fermé sur la bulle vétérinaire, et il y a plein d'autres choses à côté qui laissaient passer, que je voulais pas faire, parce que c'était pas dans l'esprit, finalement. Là, c'est un peu large que je dis, mais voilà, c'est pareil, ça allait pas exactement dans le sens que je voulais.
Okay.
Donc, où est venu le salut?
Ouais, salut, c'est ça que je me demande.
Exactement. Je comprends. C'est là, j'ai le suspense qui s'est mis en place. Tout est parfait. Le salut, il est venu par 2 autres associations. C'est là où la bière est pour moi un peu une boisson bénite parce que c'est venu entre guillemets par là aussi. Avec un autre ami de vétérinaire, on aimait ça. Il connaissait des gens qui brassaient dans une autre école. Il fait pourquoi on ferait pas ça.
Ok.
Donc on a créé le club brasseur de l'école vétérinaire d'Alfort.
Wow.
Et l'école s'appelle ENVA, École Nationale Vétérinaire d'Alfort. Okay. On a créé la BNVA, la Brasserie Nationale Vétérinaire d'Alfort. Et donc avec ça, là, c'était parti pour les brassins en amateur. On a essayé de créer notre stock, nos propres petites recettes, et de vendre ça aussi aux autres gens du campus. Ça a marché plus ou moins bien ces ventes-là. Le truc qui a vraiment marché, c'est qu'on a créé d'autres événements à côté. Donc là, il y a vraiment l'aspect peut-être entrepreneurial qui s'est mis en place. Dire, bah là, on commence à avoir des produits, on a un petit esprit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche et d'aller de l'avant. On a créé le premier événement qui était des grands succès, jusqu'à ce que le Covid arrive. Là, au jour d'aujourd'hui, ce club existe toujours et ces événements-là marchent toujours, fonctionnent à fond. C'est des bidochai.
C'est quoi une bidochai, hein?
Qu'est-ce qu'une bidochai? Une bidochai, c'est un événement, une soirée, dans lequel on fait une grillade, une viande un peu spéciale. C'était du kangourou. On a eu de l'autruche, je sais pas si du requin, mais tout des viandes comme ça, un peu particulières et exotiques. Frites à volonté. Et 2 bières comprises dans le menu lorsque tu prends ta place. Et derrière, y a 2 bières à acheter. Donc des bières de la BNVA de temps en temps lorsqu'on avait du stock. Mais surtout des bières un peu spéciales sur lesquelles il est difficile de mettre la main dessus. Donc des bières belges. Principalement aussi, et puis d'autres bières de microbrasseries parisiennes qui étaient à côté. Donc voilà,
c'était ça. D'où ça devient ce plaisir de la bière? D'où ça devient? Est-ce que c'était juste une curiosité ou?
Bah, venant du Nord.
Il y avait tes amis, mais au-delà de ça, ouais. Oui, bon, venant du Nord, c'est du Nord en fait que c'est dans tes gènes.
C'est ça. Peut-être que ça coule dans mes veines. Mais venant du Nord, on buvait vraiment de la bière dans nos soirées quand on était jeunes là.
Okay.
Là, les soirées quand on était au lycée, etc. C'est quasiment que de la bière. On buvait très peu de vin et des alcools forts de temps en temps. Mais l'alcool de base, c'est la bière. Et après, y a un aspect technique. Il y a comme une grande variété aussi. Là, dans la bière, il y a tellement d'arômes et de types différents qui ont des histoires différentes aussi en fonction du lieu. C'est un univers à part entière. Et là, c'est le fait de pouvoir plonger dedans et mettre d'une petite manière sa patte. Ça m'excitait bien.
Et d'ailleurs, j'ai une question qui me vient en tête. Rien à voir avec ton parcours, mais plus avec la bière. J'ai fait un épisode sur le vin il y a une semaine ou deux. On a l'œnologie pour le vin. Il y a quoi pour la bière?
C'est la zytologie.
Ah, c'est ça, ok. Donc la zytologie.
Ouais.
Okay. Donc les zytologues. C'est ce... D'où ça vient? Je sais pas si tu sais.
Zyto, je crois que c'est un zytos. On va appeler ça à la grecque. Je pense que ça doit. Il y a des chances que ça soit zytos.
Okay.
Ça doit vouloir dire bière ou cervoise en grec.
Ok.
C'est la racine grecque derrière.
Ok, intéressant. J'avais jamais entendu parler de ça. Et il y a des concours ou pas de?
C'est beaucoup moins développé que l'aspect sommellerie et œnologie. Mais ça arrive, ça se développe quand même vachement, sachant que y a un vrai boom là depuis les années 2000, 2010, que ce soit en Nord-Amérique et en Europe vis-à-vis de la bière. Donc là, ça se développe beaucoup, beaucoup, ouais. Je crois que les premières écoles de zytologie, ça doit pas exister, ça arrivera bientôt,
ouais. Ok. Parce que j'ai l'impression que tout le monde autour de moi, ou je sais pas si c'est un biais, mais j'ai l'impression que plein de gens créent des marques de bière, où il y a un gros boom de la bière. Je sais pas si c'est vrai, si on peut le calculer. Mais notamment d'où je viens à Toulon, je fais une pub pour la bière de la Rade qui s'est créée, c'est un gros truc, en plus c'est local.
Ouais.
Au Québec, donc là on est au Québec et on est à Montréal, j'ai l'impression qu'il y a des bières partout.
Il y en a partout.
Pourquoi ça se développe autant? Qu'est-ce qui se passe avec la bière?
Mine de rien, c'est un alcool fermenté qui a ses lettres de noblesse et qui malgré tout reste assez facile à produire. Dans le sens où du grain, ça s'achète facilement et il y a des grandes malteries qui font du grain facile. Il y a juste à l'acheter, mettre sa pâte et faire sa recette. Il y a beaucoup de savoir-faire derrière, mais c'est du savoir-faire qui est concentré sur peu de temps. Parce que je pense peut-être, si on compare au vin, le vin, il y a vraiment l'aspect, viticulture. Et après,
maturation, j'imagine.
Viticulture. Ouais. Je pense qu'il y a la différence entre l'élevage du raisin et l'élevage du vin. Mais souvent, pour des bons vignerons, etc., c'est des, dans l'esprit des gens et dans les faits, c'est deux choses qui sont vraiment toujours assemblées. Donc, il faut minimum 3 ans pour que tes vignes commencent à produire correctement. Puis là, tes raisins, c'est pas non plus le sommet de la qualité encore. Il faut attendre que des vignes vieillissent.
Ouais.
Donc, c'est des investissements qui sont colossaux et du temps colossal pour commencer à avoir vraiment, de l'alcool de choses de grande, grande qualité. Que la bière, c'est pas le cas, quoi. La bière, ça se fait bien plus facilement. Pour faire des ales, par exemple, qui sont un type de bière, en 2 semaines, la fermentation, à partir du brassage et la mise en bouteille, ça peut nécessiter 2 semaines. C'est ridicule, 2 semaines.
Ouais, ça doit participer à la démocratisation de ce produit.
C'est comme les distilleries, par exemple. Il y a plus en plus de distilleries. Ouais. Et c'est pas du whisky qui va être fait. Ça va surtout être du gin, des alcools blancs, certains peut-être de type de brandy pas vieilli ou très peu vieilli. Et là-dessus, c'est parce que, il faut juste acheter, soit faire la fermentation soi-même à partir de malt ou de grains, de céréales fermentées. Et après, juste conditionner. Ça va très vite aussi. C'est, lors de 2 semaines, tu peux faire un gin aussi, je pense.
Ok.
Mais ça c'est si tu fermentes toi-même. Après des fois tu peux déjà acheter des je sais pas comment on appelle ça, enfin du mou qui a déjà fermenté. Donc t'achètes l'alcool fermenté, tu fais ta distillation toi-même et après tu fais ton mélange d'aromates etc pour faire ton gin ou quelques étapes de vieillissement qui peuvent durer quelques mois, très peu etc. Tu mets ça en conditionnement et tu fais de l'alcool fort déjà prêt à boire qui peut aussi être de très bonne qualité aussi là-dessus.
Okay.
Donc c'est vraiment des défis de temps et d'investissement qui sont bien moindres.
Mais ça, ces défis-là avant c'était les mêmes. Donc pourquoi là en ce moment, est-ce que je sais pas, j'ai l'impression qu'en ce moment vraiment,
il y a un effet de mode. Il y a un effet de mode. Après, même si c'est plus facile à faire, faut quand même savoir le faire. Et l'information aujourd'hui, elle est très facilement accessible. Mm. Parce que là, avant de se lancer, beaucoup de gens sont des brasseurs amateurs. Moi, je suis passé par là aussi, d'ailleurs. Et le brassage amateur. Il faut de l'information, il faut pouvoir aussi acheter des petites quantités de malt et de houblon parce que c'est vraiment différent de faire un brassin de 20 litres chez soi que de faire du 1000 litres ou 2500 litres de base. Donc aujourd'hui, ce côté brassage amateur est vraiment développé. Il y a des marchands qui vendent des produits pour du brassage amateur uniquement pour ça. Et il y a une époque où c'était pas le cas. Quand t'achetais du grain, t'achetais forcément des sacs de 25 kilos. T'achetais forcément 1 kilo ou 5 kilos de houblon. Alors que pour faire une bière de 20 litres, t'as besoin peut-être de 4 kilos de grain et de 50-100 grammes de houblon. Donc aujourd'hui, c'est très facile de se former, de faire ses premiers tests. Ses premiers tests et c'est toujours comme ça.
Puis je pense qu'il y a aussi un effet où on privilégie le local de plus en plus. Donc peut-être que chaque marque décide de faire pour sa communauté sa propre bière.
Ça, moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est vraiment un aspect marketing là-dessus, puisque ce qui a donné des vocations des gens de faire de la bière. Je suis pas sûr que le mec dise il manque une bière locale, je vais faire ma bière locale.
C'est vrai. C'est pas faux.
Je vais faire une petite pause là parce que moi j'ai fini mon verre là.
On fait une pause.
Et du coup, je vais vraiment.
Moi, j'ai pas fini. Vas-y, tu peux te refaire.
Je vais ouvrir mon plat d'analyse pour dévoiler mon Kegerator fait maison.
Vas-y. C'est vrai, tu m'en as parlé.
Ma bière pression.
Pendant que Ludovic prépare une bière, je voulais vous remercier pour votre écoute. Cette aventure, elle a commencé il y a 1 an, et je suis content de faire profiter de toutes ces rencontres. Pour soutenir le projet, il suffit d'en parler autour de vous, de s'abonner, de me noter, de vous faire vacciner et de manger 5 fruits et légumes par jour, et peut-être, qui sait, un jour, nous fêterons les 10 ans du MC Talks. Aussi, tous les dimanches, j'envoie un courriel pour vous donner le sourire avant une semaine de travail. Mais aussi, je vous raconte toutes les galères de mon podcast. Par exemple, vous apprendrez qu'en arrivant devant chez Ludovic, après 15 minutes de vélo à fond les ballons, j'ai capté que j'avais oublié l'outil qui connecte mon micro à mon ordinateur. On a dû utiliser son ordinateur, enfin bref, j'avais l'air bien bête et j'avais la goutte sur le front. Si vous voulez savoir tout ça, vous pouvez vous inscrire avec le lien qui est en description de l'épisode, ça vous mènera à mon site, vous pouvez mettre votre adresse courriel, votre adresse mail, et vous recevrez tout ça. Sur ce, je ne vous dérange pas plus parce que Ludovic est de retour. Alors, à fond les ballons, on n'a plus utilisé cette expression depuis bien longtemps. Voilà, c'était juste la deuxième parenthèse dans la parenthèse. On retrouve Ludovic.
Hop. Voilà.
Ah, c'est bon.
Me revoilà, avec une bière.
On se retrouve.
Après la pause.
Donc, on parlait du local. Du coup, j'ai laissé un peu tomber ton parcours. Donc, on s'est retrouvé. Donc, t'es à Lille, il y a cet événement avec les... les viandes un peu exotiques, le frit, c'est ça, les bidochailles. Comment?
Bidochailles.
Les bidochailles, ça. J'avais plus le nom. Donc, les bidochailles, c'est là où tu commences à faire la promotion un peu de ta bière, en fait. De tes produits. Avec tes amis.
Si on peut, enfin, si je me la raconte un petit peu dans ma tête, c'était, des premières expériences un peu entrepreneuriales et un peu côté marketing aussi, le fait de créer des événements, gestion de projet. Mm-hmm. Bon, ça, on peut dire que ça arrive un peu comme ça, même si c'est vraiment des trucs faits, très bon enfant avec, c'était des clous et des ficelles, quoi.
Ok, c'est que du do it yourself.
Mais après, ça s'est très bien passé. Il y a un vrai truc qui a pris autour de ces événements-là. Donc, on avait la bidochaille qui a pris. Derrière, on a fait quelques déclinaisons, entre guillemets, avec d'autres événements qui étaient très tournés sur la bière aussi avec ce club-là. Donc, okay. La petite sœur des bidochailles, c'était les dégustachailles. Où là, c'est comme au concours général agricole, ou des événements de concours de bière, où on a un panel de bière à noter. Et après, on donnait des médailles, on avait les médailles de la BNVA, quoi, sur ce panel de bière qu'on avait testé. Et donc là, c'est les étudiants qui venaient avec des grilles notations, une sorte de pas de formation, mais on les prenait par la main pour faire comment est-ce qu'on joue une bière, qu'est-ce qu'on va chercher, quel style de bière et qu'est-ce que ça doit avoir comme arôme, comme caractère. Donc ça, c'était très chouette aussi, ça a bien pris. Parce que là, il y avait 1 litre, 1,5 litre de bière à déguster aussi. Okay. Donc il y a une bonne ambiance qui se forme au fur et à mesure, forcément. Et le dernier truc qu'on faisait, c'était les bières du mois. Donc, c'était des paniers avec des bières un peu spéciales qu'on allait chercher sourcer quelque part, donc souvent en Belgique aussi.
Okay.
Et des fois autre part. Et donc voilà, ça c'était...
Et ça c'était pendant les études, hein?
Ça c'était pendant les études, ouais.
Mais donc, déjà, comment tu faisais pour faire les deux à la fois? Ça, c'est le point. Parce que vétérinaire, j'ai l'impression qu'on travaille beaucoup, donc on me dit comment il fait pour vendre des bières en même temps.
Là-dessus, j'ai encore eu un coup du sort. Beaucoup de chance, je dirais, à mes yeux. C'est que moi, j'étais l'année sur laquelle, enfin, juste avant une réforme qui fait que les cours, en amphithéâtre étaient obligatoires.
Ok.
Donc, on a des cours en amphithéâtre, des cours magistraux, des TP et des TD.
Ouais.
Et moi, j'étais l'année où il y avait juste les TP et les TD qui étaient obligatoires en présentiel.
Ah, donc déjà, t'as pu évacuer.
Tout ce qui était en cours magistraux, j'y suis quasiment jamais allé.
Ok. Ah, c'était plus ta priorité, en fait, parce que tu savais que tu t'en foutais.
Pas télé, hein.
Ouais.
Enfin, j'aimais pas ça. En vrai, j'aimais pas ça. Et, du coup, je suis pas allé souvent à ça, donc ça me laissait quand même pas mal de temps pour faire autre chose. Donc, il y avait ça beaucoup. Et après, ça prend du temps, mais c'était pas le club qui me prenait plus de temps. L'autre, parce qu'il y a eu deux raisons à mon salut. Ouais. En fait, c'était la junior entreprise de l'école vétérinaire.
Ah, ça, j'étais dans mon école en junior entreprise aussi. Ouais.
En vrai, c'est
formateur.
C'est formateur, c'est ultra intéressant aussi. Et là, la junior où j'ai eu la chance aussi, c'est que c'était tout jeune. C'est-à-dire qu'elle a été créée par une personne qui avait 2 ans de plus que moi. Et, comme je te dis, c'est l'aspect entrepreneurial, entreprise, gestion, c'est pas quelque chose qui tient à cœur aux vétérinaires. En tout cas, sur
mais ça, ça revient beaucoup quand même. Parce que junior entreprise, créer sa marque, enfin, ses produits avec la bière, faire son événement.
Moi, c'est là où ça m'éclatait, ça.
Ouais, t'avais envie d'entreprendre quelque chose.
Ouais.
Et donc, tu fais cette junior entreprise et c'est
ça.
C'est beaucoup de travail, ça aussi, d'ailleurs.
Ça, c'était beaucoup de travail, d'autant aussi que, la personne qui avait 2 ans de plus que moi, qui l'avait créée, au moment où après, elle devait partir faire d'autres choses aussi, elle a fait aussi l'essai avec une école de commerce que j'ai faite. J'ai pas mal suivi son parcours là-dessus, si on peut dire. Mais du coup, il y avait un gros défi, c'était comment pérenniser l'association. Parce que c'est pas une valeur ou un centre d'intérêt de beaucoup d'étudiants.
Ouais. D'ailleurs, on va juste expliquer à Junior Entreprise ce que c'est.
C'est une association qui fait des missions souvent rémunérées pour le compte d'entreprises privées ou en public, d'autres entreprises qui sont pas à l'école. L'objectif là-dessus, c'est de mettre en pratique des compétences ou des connaissances qu'on acquiert dans l'école. Et de les mettre une manière utile sur le marché du travail, au contact de professionnels.
Du savoir-faire, en fait, aussi ça. Moins cher.
Moins cher aussi,
c'est pour les entreprises.
Ouais,
parce que c'est des étudiants, pas des professionnels. Je sais que nous, en école de commerce, c'était du consulting.
Ouais.
Mais c'était pas des consultants, c'était des étudiants, donc bien moins cher.
Hein.
Et donc, junior entreprise plus association dans la bière égale tu pars en école de commerce juste après?
C'est ça. Bah, en fait, là, le plan s'était dessiné en première année d'école vétérinaire. C'était que... là, avec le diplôme vétérinaire, je pourrais faire peut-être d'autres choses, mais idéalement, si mes vétérinaires me convient pas et qu'il faut que j'élargisse mes horizons, j'ai mes parents et mon entourage qui m'ont dit vraiment, faire un double diplôme avec une école de commerce, ça peut vraiment aider, sachant que là, la fille que je connaissais qui a créé l'école vétérinaire, elle a fait un double diplôme avec l'ESSEC, donc je visais ça aussi, et j'ai réussi aussi à la voir finalement, et c'était entre guillemets le graal que je m'étais fait dans ma tête pour tenir ces études vétérinaires. Pour dire après je ferai ça et après je pourrais faire entre guillemets plein d'autres choses qui m'intéressent plus. Mmh. Et finalement avec du recul, ça me fait penser aussi là peut-être dans France, enfin dans le monde de l'éducation française, on dit, enfin, les études, c'est très important pour toute la population. Et on dit tous, il faut faire des études, faire des études pour ci, pour ça. Mais à la fin, il y a peu de gens qui savent, ils font des études pour quoi, quel travail derrière. Qu'au départ, les études, ça a été fait pour gagner en compétences, pour avoir accès à un meilleur travail et un meilleur statut, on va dire, peut-être. Et du coup, bah, cet aspect objectif des études, c'était oublié par la plupart des gens que je connais, même moi aussi, c'est un truc que j'ai oublié.
Ah, moi aussi, complètement.
J'ai fait des études parce que, bah, il faut faire des études pour avoir une bonne situation, mais qu'est-ce que c'est cette bonne situation derrière? Personne sait y répondre. Et enfin, c'est ça, c'est une question quand même ultra compliquée. Mais
c'est une question,
à la fin, les études, pour la plupart des gens, moi compris, c'était une période d'en mettre à plus tard là, à cette question, quoi.
Ouais, c'est ça, en fait, on va jusqu'au master, et c'est après le master qu'on se pose la question, bon, maintenant qu'on est là, il faut qu'on fasse autre chose, qu'est-ce qu'on fait?
C'est du temps gagné, à la fin, qui est plutôt perdu qu'autre chose. Mais qui fait que, enfin, qui est vachement accepté socialement et qui fait tout le monde dire tu fais ça, bah c'est bien, mais à la fin le but de ces études, à quoi il sert? Pourquoi est-ce que t'as sacrifié pour un master 5 ans de ta vie où t'as payé, t'as
beaucoup d'argent, beaucoup de temps, c'est ça. Et donc toi, donc t'arrives en école de commerce, mais t'as l'air d'être plutôt clair sur ce que tu veux faire. T'as découvert la bière. J'imagine que tu veux le diplôme parce que tu sais que tu veux te lancer dans la bière. En tout cas, c'est ce que
ce milieu-là, enfin, dans ma tête, j'avais ça qui trottait déjà depuis un bout. Ouais. Depuis la BNVA, c'est vraiment un truc que je dis, si un jour j'ai l'occasion de faire ça, je serais ultra heureux. Mais la chose aussi, il y a comme plein d'autres horizons que je connaissais pas, et que je dis, c'est l'occasion peut-être d'aller chercher aussi des expériences là-dedans, parce que, mine de rien, c'est encore 2 ans de plus d'études à faire avec ce double diplôme.
Ouais.
Donc, même
qui
si.
Qui coûte cher en plus, hein, c'est quand même
qui coûtait une fortune.
Ouais.
Merci papa, merci maman, j'ai cette chance-là. Mais du coup, avec ça, j'en ai profité pour faire autre chose. Enfin, d'ailleurs, aussi, là, mon doctorat vétérinaire, moi, qui ne me dirigeais pas vers la pratique, j'ai voulu en profiter pour voir un peu ce que c'était le côté laboratoire. Les pharmacies vétérinaires où j'ai fait ma thèse qui était commanditée par le syndicat des fabricants du médicament vétérinaire.
Okay.
Et donc moi c'était une thèse à la fin qui s'est portée sur la réglementation, donc c'est pas ultra le fun, mais ça m'a ouvert des portes pour voir à peu près à quoi ça ressemblait aussi ce milieu là donc je suis content d'avoir vu ça.
Je trouve ça quand même incroyable. Tu as fait une thèse sur un sujet où, enfin, dans un domaine où tu en avais rien à faire au final parce que tu voulais partir. Motivation quand même incroyable.
C'est vrai que c'était, je pense qu'une capacité à emmagasiner de la frustration, correcte.
Ah, je pense que j'aurais jamais pu faire ça, mais dire, dans 2 ans ou 3 ans, je me barre, je vais quand même écrire une thèse sur le sujet.
La thèse, il me l'a fallait pour avoir le
ouais, il te l'a fallait dans tous les cas. Mais c'est dur.
Et ce que j'avais signé, entre guillemets, avec mon entourage, c'était que, le but, c'est d'avoir le doctorat, et après, tu fais ce que tu veux, tu t'en fous.
Ouais,
le doctorat,
il
te servira toujours un jour, ce diplôme.
Que tu l'aies, ce truc.
On va voir s'il me servira un jour, peut-être, mais après, là, j'ai toujours dit que je l'ai fait, et qu'il me fallait une thèse pour le faire. Cette thèse-là, j'en ai profité pour voir cet aspect des laboratoires. Et cet aspect des laboratoires, c'était très intéressant aussi, mais ça, parce que moi, c'est la pratique qui me réchignait au départ.
Ouais.
Cet aspect laboratoire est plus entrepreneurial, c'est pas entrepreneurial, c'est plus grosse entreprise et grosse machine, grosse réglementation. Un truc qui fait aussi, moi, qui m'a permis de voir aussi que on a une sacrée, enfin, même si c'est très lourd et c'est pas forcément le fun de travailler là-dedans, on a une sacrée chance en Europe et, en l'occurrence en France, mais avec l'Union Européenne, ça s'harmonise quand même énormément. Là, toute la sécurité et les réglementations qui est mis autour de ces produits qui ont un impact sur la santé, animale en premier lieu, puis humaine derrière, parce qu'il y a beaucoup d'animaux de production qui sont les cibles de ces médicaments. Et voir tout ça, toute cette machine-là, moi, d'un côté, ça m'a rassuré. Et je dis que, avec tout cet aspect santé-là, si on fait pas n'importe quoi au niveau de la réglementation, il y a énormément de contrôles qui sont faits. Et, sur la confiance que j'ai là-dedans, dans la réglementation et les autorités européennes, moi, ça me l'a conforté. Donc, pour ça, je suis content aussi.
Ouais, t'as un côté curieux aussi, j'imagine, ou t'as l'air de content de découvrir ça, même si tu veux te barrer.
Ouais, en effet. Mais du coup, j'ai vu ça, et après, j'étais dans mes études de commerce, qui doivent ressembler à beaucoup, beaucoup de choses que t'as dû faire toi aussi.
Ouais.
Donc, ils sont très, très larges, très généralistes, et c'est vrai que je comprends encore une fois qu'on peut facilement se perdre dans des études si larges et si généralistes par rapport à ce qu'on veut faire de sa vie.
Ouais, parce que toi, t'avais une expérience quand même avant, t'avais fait vétérinaire, tu t'étais lancé dans un projet vraiment pratique, quoi, la bière, t'as vendu tes bières, tu t'es débrouillé. Donc, t'avais une expérience avant d'arriver en école de commerce.
Ouais.
Alors que là, ce qui se passe, c'est quand même qu'il y a beaucoup d'étudiants qui rentrent après le bac.
Ouais.
Donc, qui n'ont pas cette expérience-là et qui savent pas trop que moi. Hein. Moi, je savais pas ce que je voulais faire.
J'aime bien pouvoir dire que l'expérience d'enlever des testicules de chien et de chat, c'est l'expérience professionnelle.
Oui.
J'aime ça.
Exactement.
Ça me plaît bien.
Donc, tu fais ton école de commerce, t'es diplômé.
Dans l'école de commerce, l'autre chose aussi que j'en profitais, c'est voir un peu l'aspect, le côté finance et cet aspect-là, là. Et donc, j'ai aussi avoir décroché un stage à Singapour, dans un fonds d'investissement, mais là, qui est un peu spécialisé aussi dans le côté santé et solutions durables pour l'alimentation pour demain. Donc, j'étais là-bas en tant qu'analyste scientifique. Ça durait 6 mois, je suis resté 7 mois à Singapour, et c'était vraiment chouette.
Comment c'était Singapour? On en a parlé en dehors du micro, ouais. Mais peut-être tu peux nous partager ton expérience, votre expérience à Singapour.
Ouais, parce que ma femme est venue me rejoindre aussi après 3 mois tout seul là-bas. Bah, c'est vraiment une sacrée expérience que je regrette. Enfin, même, je suis très content d'avoir fait ça. C'est vraiment une pépite et un bijou au centre des cultures asiatiques. Et il y a aussi beaucoup d'Européens et d'Occidentaux qui viennent travailler là-bas. C'est vraiment un hub de services et de technologies. Après, la chose qui fait que je me verrais pas travailler là-bas non plus, malgré cette, ce cosmopolisme cette ardeur au travail intellectuel. C'est le côté culture aussi qui se mélange pas tant que ça, plus qui se juxtapose. Et après, il y a énormément de différences sociales à même la rue. Ouais. Dans le sens où il y a des élites qui travaillent, qui ont des très très bons conforts de vie. Et à côté de ça, il y a des gens qui doivent avoir peut-être 50, 60 ans, 70 ans, qui sont handicapés et qui travaillent dans les food courts, quand tu vas travailler le matin, tu prends une petite chose à manger avant d'aller au travail. Tu repasses le soir à 23h après avoir vu des gens que tu connais et ils sont encore là à débarrasser les choses et travailler tout le temps. Et ouais, ces inégalités sociales là qui sont vraiment partout, ça fait bizarre à voir ça toujours au coin de la rue. Et enfin, pas des castes, mais ouais, des groupes sociaux qui sont qui vivent ensemble. Il y a un vrai vivre ensemble, mais il y a pas autant de mélange qu'on pourrait le penser, quoi.
Ouais.
Parce que ce qui est beau et ce qui est aussi incroyable, hein, même au niveau de l'architecture, toi qui as été 2 jours, tu m'as dit que t'as des endroits où tu trouves ça très froid, où t'as des énormes buildings avec des rues à 3
voies. Il y a des endroits que j'ai pas aimé, enfin c'était beau. Il y avait le Marina Bay quand même qui est magnifique, l'hôtel, mais il y a un côté froid, un peu comme à Dubaï.
Ouais.
Parce que j'imagine c'était le quartier des affaires.
Mmh.
Je sais pas, hein, j'imagine. Ouais. Mais ouais, ça m'a pas trop plu. Je me suis dit, oula, c'est pas une ville dans laquelle j'aimerais vivre.
Ouais.
Mais après, ouais, c'était le quartier chinois, j'imagine. Où il y avait un food court, comme tu m'as dit, où il y avait super chicken rice, ou je sais pas ce que j'ai mangé. Mais ouais, là, c'était bon et c'était une autre image de Singapour. Mais je suis pas resté assez longtemps pour faire une bonne idée de la ville et du pays.
Je comprends. Mais cet aspect froid, néanmoins, le truc qui est incroyable, c'est qu'au beau milieu de tous ces buildings, t'as un petit temple avec une architecture incroyable.
Ouais.
Il y a des couleurs de folie. Et à côté de ça, il y a un autre food court qui était une ancienne salle de marché qui, architecturalement, ça a de la gueule. C'est vrai, c'est vraiment joli. Et puis tu manges vachement bien pour des trucs à 4-5 dollars, avec à côté des gens qui sont en costard qui doivent faire des millions par an, j'en sais rien. Et à côté de ça, quelqu'un qui a 70 ans.
Avec toi.
Et à côté de ça, quelqu'un qui a 70 ans, qui est cul-de-jatte et qui débarrasse l'assiette de tout le monde et qui travaille là tout le temps et qui doit lui rien gagner de sa vie. C'est assez incroyable. C'est assez
paradoxal.
Ouais. Donc je suis très content d'avoir vu ça. Et c'était vraiment très chouette, mais c'est pas là où j'ai envie de planter ma tente.
Et c'est où que t'as envie de planter ta tente alors?
Le Pays Basque, aujourd'hui.
Le Pays Basque. Alors ouais, donc le Pays Basque, ça va arriver. D'ailleurs, c'est dans ton futur, c'est dans notre futur là.
Futur
là, t'es à Montréal. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est à Montréal. Vous êtes arrivé à Montréal en novembre 2019. Tu me disais ça avant.
Ouais. 2019, c'est ça.
On disait ça avant qu'on mette le micro en route. Entre Singapour, le diplôme d'école de commerce, et Montréal, tu te retrouves dans de la bière ou pas du tout?
C'est ça. Le but, c'est ça, de travailler dans la bière à terme. Après là, ce qui m'intéresse le plus, c'est les microbrasseries. Il y en a quelques-unes aussi au Pays Basque, mais après, il faut arriver au moment où ils cherchent quelqu'un dans un poste. Moi, que ce soit aussi l'aspect comptable, comme ce que je fais ici aujourd'hui, ou la production ou autre.
Mais justement, après le diplôme. Donc après le diplôme, tu vas direct à Montréal en novembre 2019 ou t'as été diplômé en 2019? Ou qu'est-ce qui s'est passé en fait entre Montréal et le diplôme?
Entre Montréal et le diplôme, à l'ESSEC, on est très libre aussi. Dans l'école de commerce que j'ai faite, à chaque fois, ça marche par trimestre et pendant ce trimestre-là, tu choisis ce que tu fais. Donc, moi, j'avais fait Singapour. C'était 7 mois. Et après, j'étais revenu après ici et j'avais encore un dernier trimestre à faire. Dernier trimestre où j'ai pris tous les cours qu'il fallait pour que je valide. Et en fait, il y en a un que j'ai raté.
Okay.
Et du coup, c'est un cours que j'ai fait ici à Montréal en visioconférence, ce genre de choses.
Ah, donc t'as fini ton diplôme ici, à Montréal. Ouais. Enfin, donc après, t'as déménagé, t'as continué un peu.
J'ai mon CDI avant de finir mon
ton
diplôme.
Ok.
Et mon diplôme, je l'ai eu. Il a été envoyé chez mon frère parce qu'ils l'ont pas envoyé de l'autre côté de l'Atlantique. Mais du coup, là, je suis diplômé. Enfin, là, j'ai mes 2 diplômes. Attends, c'est terminé là.
Ok, là, c'est
mais
bon.
Du coup, je suis diplômé. Il y a pas si longtemps que ça, finalement, de
l'ESSEC. D'accord. Ok, c'est ça que je savais pas. Et ici, tu travailles dans quoi? Qu'est-ce que tu fais à Montréal?
Montréal, moi, c'est quand même assez reconnu dans le milieu pour l'activité, ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Au niveau microbrassicole, il y a des microbrasseries partout. Je crois que depuis 2012 jusqu'à maintenant, le nombre de microbrasseries, enfin les permis émis pour les microbrasseries, il a doublé. Donc il y en avait déjà quand même pas mal par rapport à d'autres endroits sur la planète, et là il y en a encore plus, et il y en a encore plein qui s'ouvrent aujourd'hui là. Donc la vague n'est pas finie. Après, est-ce que la vague, est-ce que tout le monde arrivera à surfer aussi et rester rentable et à faire ce qu'il faut? Ça, c'est juste qu'on va voir aussi là. Mais du coup, en tout cas, il y a un savoir-faire, il y a une volonté, il y a plein de consommateurs qui sont avertis, qui ont des exigences. Et donc là, avec ça, moi, ça, ça suffisait pour venir ici, me former auprès de gens qui ont cette culture-là nord-américaine aussi, de faire de la bière, de lancer des entreprises, de gérer un business. Je voulais me frotter à ça pour me former et puis peut-être ramener toutes ces connaissances-là et ce savoir-faire en France par la suite.
Et donc, tu travailles dans quoi? Tu fais quel job exactement?
Alors, le but au départ, c'est de rentrer. J'ai vu un poste de commis-compte, enfin, j'ai vu plusieurs postes de brassage, etc., qui sont passés, mais maintenant, comme il y a un savoir-faire, il y a plein de brasseurs d'expérience sur le marché. Mais moi, je faisais pas le poids face à ça. Malgré mes petits 20 litres que je faisais de temps en temps, avec les copains et la famille, le brassage, là, ils ont des gens qui, il y a plein de brasseurs d'expérience sur le marché. Et donc là, le poste que j'ai réussi à avoir pour aller en micro-brasserie, c'est commis-comptable.
Ok. Mais donc, c'est intéressant. Donc, tu voulais tellement travailler dans la bière que je t'ai dit, il faut que je rentre.
Le but, c'est
dans le domaine. On s'en fout de ce que je vais faire, en fait. C'est ça. C'est un peu ce que je comprends. Donc, tu te retrouves commis comptable, mais t'aurais pu te retrouver,
autre chose, ouais.
N'importe où, quoi.
Moi, je voulais juste rentrer dans le milieu micro-brassicole québécois. Et, j'ai eu cette chance-là. Et en fait, finalement, c'est parfait. Parce que ça me fait penser à, je crois que c'est Al Capone aussi qui était comptable de base.
Ah, peut-être, ouais.
Et du coup, en fait, la comptabilité, c'est qu'on a accès à toute l'information financière de la boîte.
Ah, c'est ça, en fait.
J'ai tout sous les yeux, quoi. Genre même les recettes, comment elles sont faites, comment ça prend. Et après, faire les enregistrements comptables, j'ai accès aux documents originaux. Donc là, enfin, que ce soit pour les recettes, comment ça marche, les emplois du temps, le côté marketing ou tout ce que tu veux. Moi, dès qu'il y a un chiffre qui doit être enregistré comptablement, j'ai accès à ce fichier-là. Du coup, je vois tout. J'ai toute l'information à moi. Et donc, là, ça me fait penser à Al Capone, qui finalement, c'était un peu, la clé de son succès, c'est que le mec, il sait que tout passe par les chiffres, et avec les chiffres, tu peux tout voir aussi. Et, okay. Et là-dessus, le petit lien qu'on peut faire dans le milieu, par rapport au milieu médecine vétérinaire, c'est que la comptabilité, c'est pas un but en soi, la comptabilité, c'est quand même aussi un truc très chiant d'entrer des factures, hein. C'est, ça, on se le cache pas, c'est vraiment relou. Mais, à la fin, c'est un super examen que tu peux faire passer à ton entreprise. C'est-à-dire, si tu vois avec la comptabilité, tu vois, si elle est en bonne santé, tu vois comment elle fonctionne, tu vois les endroits où ça fonctionne bien, où ça fonctionne moins bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne mieux. Entre guillemets, c'est comme une radio ou un test biochimique de sang. Tiens, quel est l'état de santé de mon entreprise? La comptabilité, c'est ça peut être compris comme cet examen-là. Donc bien. Là, je fais du lien avec mon, pour me rassurer aussi que j'ai pas fait 7 ans d'études pour rien. Je me dis ce genre de choses pour me rassurer.
Il y a un sujet qui revient dans les épisodes que je fais, et même dans ce que j'écris. C'est l'ego, la place de l'ego.
Oui.
C'est l'ESSEC, c'est ça, ton école de commerce,
ouais.
Il me semble. Donc, t'as fait l'ESSEC, qui est, les gens qui s'y connaissent pas en école de commerce, c'est une des top 5 écoles de commerce en France, et même une des plus connues dans le monde. T'as fait une école de vétérinaire. Donc, je me dis, quand on a fait tout ça, on a un ego qui a quand même commencé à gonfler.
Ouais.
Et on va pas se retrouver commis comptable. C'est pas que c'est un mauvais métier, mais quand on est en école de commerce, on nous promet tellement monts et merveilles.
Ouais.
Qu'on s'imagine pas se retrouver là-dedans. Toi, t'as fait le choix d'aller là-dedans pour, s'y connaître encore plus dans le domaine, mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit mais je suis nul, mon ego, c'est... Est-ce que ton ego a pas été un challenge, un problème?
Comme ça, j'en ai... Ce côté ego-là vis-à-vis de faire des métiers qui sont peut-être pas considérés du coup socialement, là, c'est ce que tu veux
ça,
dire.
Hein. Moi, c'est... En fait, je prends mon exemple, quand je suis sorti d'école de commerce, il y a des métiers où je me suis dit peut-être que je trouve pas ça nul, mais socialement, c'est peut-être vu comme nul. Et même si on le veut pas, des fois on fait attention à l'image qu'on renvoie. Et donc c'est ça, je me dis, est-ce que ça n'a pas été un problème pour toi?
J'avais pas cet objectif là. Moi, c'est que l'objectif que j'avais, c'était de voir, enfin, je voulais rentrer là-dedans et pouvoir me frotter à ce milieu. Et puis ce côté égo là, moi, c'est que je pense que ça vient aussi de ce que je sais à peu près ce que je veux faire. J'ai quand même quelques ambitions aussi, et je dis, s'il faut passer par là, ça me dérange pas du tout de le faire. Par exemple, quand on va rentrer en France, dans le Pays Basque, si jamais j'arrive pas à trouver de métier qui me convienne pour rentrer dans le milieu brassicole, etc. Moi, ce qui m'intéresse derrière aussi, c'est l'aspect immobilier. Donc, je vais chercher des jobs dans le côté immobilier, même encore une fois, un poste de commis-comptable pour démarrer. Je m'en fous. Et si jamais je trouve rien du tout, moi, ça me dérange aucunement de faire un temps chez McDonald's. C'est le but, c'est de travailler.
T'as pas du tout des problèmes. L'ego n'est pas du tout une barrière ou un.
Pas à ce niveau-là.
Et après, ou l'image.
Peut-être tellement d'ego que je m'en fous que, enfin, que
peut-être, peut-être c'est l'inverse, en fait.
C'est peut-être tellement d'ego que ça, je m'en fous. C'est pas là-dessus que je me considère et que je me joue moi-même.
Tu veux apprendre et c'est comme ça qu'on passe pour apprendre. Ok. Et juste rapidement, sur le Québec et les microbrasseries, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus au Québec. Est-ce que l'alcool autre que les bières est beaucoup plus cher, donc on se tourne vers les bières ou,
c'est une très bonne remarque.
Quelle raison? Parce que moi, à côté de chez moi, donc, ici au Québec, on a les dépanneurs. Les dépanneurs, c'est quoi? Je sais pas quoi comparer ça en France.
Les épiceries qui sont ouvertes
quartier,
à minuit,
quoi. C'est ça, voilà. Et j'en ai un à côté de chez moi. Et quand tu rentres, c'est immense. Et il y a plein de bières. Vraiment, je pense que c'est le dépanneur avec le plus de bières. Je sais pas si tu le connais, à côté du parc Baldwin. Faut que tu y fasses un tour.
C'est pas le Peluso, non?
Je sais pas son nom,
c'est forcément de mon client s'il a plein de bières.
Il est impressionnant. Mais c'est impressionnant. C'est le dépanneur le plus impressionnant de Montréal au niveau des bières. Et bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a plein québécoises. Et je me dis, c'est fou, il y a pas autant de bière quand même dans en Provence à la Côte d'Azur.
Mais là-dessus, la grosse différence, c'est qu'ici, enfin, c'est là le, on est dans un modèle nord-américain où moi je suis arrivé, je pensais que c'était les économies les plus libérales du monde. Genre, on pense à l'Amérique, c'est le capitalisme libéral, c'est la base du modèle économique, et en fait, pas du tout. Genre ici, il y a tellement de choses où il y a des entreprises qui ont des monopoles. Donc, à commencer par les alcools, il y a la SAQ, la Société des Alcools de Québec, qui est une entreprise détenue par l'État, qui a le monopole sur les alcools. Et tout le reste à côté, ça doit passer par des permis et des taxes pour pouvoir vendre de l'alcool. Donc, tout ce qui est importé, enfin, même le vin qui est ici, on a fait la triste expérience d'acheter du vin ici. Et tout passe par la SAQ et tout est surtaxé. C'est des bouteilles qui coûtent une fortune à chaque fois, alors qu'elles n'ont pas été bien conservées, elles n'ont pas été bien transportées. Et donc, la plupart des vins sont flingués. Si vous venez au Canada, au Québec, principalement Québec, je vous déconseille d'acheter du vin à la SAQ, ils sont tous flingués. Voilà, petit message personnel. Et du coup, ce qui fait que la bière, qui est un alcool assez facile à produire, ici, il y a quand même eu du grain. Au Canada, c'est comme des bons producteurs de grains. Il y a les États-Unis à côté, ils ont quand même aussi des échanges qui sont moins soumis à la taxe peut-être que d'autres régions du monde, qui sont aussi des gros producteurs de houblon et de grains. Du coup, ça fait que la bière, elle peut bénéficier de ça, dans le sens où les autres alcools sont chers. La bière, ça peut être produit comme assez rapidement, de manière moins taxée aussi que d'autres alcools.
Okay.
Genre nous déjà la bière, enfin mine de rien, c'est quand même pas mal taxé aussi hein, ici, mais c'est moins taxé que les alcools forts par exemple. Enfin parce que c'est sur le degré d'alcool, ils prennent aussi des taxes, et c'est pas les mêmes pourcentages de taxes en fonction du degré d'alcool que tu as. C'est pas les mêmes permis, c'est pas les mêmes les mêmes permis, les mêmes cotisations. Donc ça, au Québec, ça coûte très cher de faire de l'alcool, et se trouve que la bière, c'est un des alcools les moins chers à produire ici. Notamment par la réglementation et tout ça.
Ok, donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a autant de microbrasseries un peu partout.
C'est ça.
Et d'ailleurs, je me dis, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de microbrasseries, beaucoup de producteurs, comment on se différencie au Québec ? Parce qu'il y a tellement de bières, je ne sais pas comment.
C'est ça.
Comment tu te différencies, comment tu travailles là-dessus ?
Ça fait énormément de compétition, ça veut dire que toutes les entreprises, elles doivent aussi redoubler d'inventivité et de caractère dans leur marketing pour pouvoir être présentes dans le cœur des consommateurs.
Mm-hmm.
Et bah ça, c'est aussi une des bonnes raisons qui font que je suis venu ici
pour découvrir ça,
pour voir ça exactement, parce que enfin je sais pas si ça aura le même impact dans la culture française, que en France il y a comme déjà le vin qui est beaucoup bu et qui a comme de grandes qualités. On a aussi beaucoup d'alcool, soit le cognac, armagnac, les cidres aussi, donc on a comme une culture d'alcool avec de qualité qui existe déjà pas mal en France. Donc je sais pas si ça, la folie de la bière québécoise ira aussi loin en France. On a du retard là-dessus, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis, il y a de plus en plus de microbrasseries en France aussi. Mais ouais, là je suis, je sais pas.
Ok. Et est-ce que toi, tu fais ta propre bière ici? Tu essayes de faire des petits mélanges? Comment on fait sa propre bière? Comment on travaille?
Tu veux un petit cours sur comment on fait de la bière?
Non, un petit cours, comment on fait de la bière et comment on rajoute, je sais pas, je me dis, est-ce que tu vas mettre un goût de chocolat ou j'en sais rien? Comment t'as les idées qui te viennent?
En tout cas, comme ça, j'ai peut-être là, si ton verre est vide, tu peux goûter une porter. Okay. Une bière brune avec des notes chocolatées aussi un petit peu.
Ah, mais pas de chocolat,
non, mais c'est pour ça, je pense. J'allais te chercher ça.
Ouais, on peut goûter ça.
Paf. Ça, c'est une recette, c'est pas la plus réussie non plus.
Ok. Donc ça, c'est toi qui l'as faite.
C'est ça. Hop là. Je sais pas si tu veux juste goûter, tu vois, votre goûter de bière, je te mets pas forcément tout.
Ah, je.
Donc là, c'est une.
Mais elles sont douces, tes bières aussi, je trouve. Elles sont.
Ouais.
Mais celle d'avant aussi, je la trouvais douce.
Tant mieux.
C'est agréable, quoi. Alors que c'est vrai que je vois pas souvent des bières. Parce que je trouve ça peut-être des fois trop fort ou quoi, là je trouve ça doux et agréable en bouche. Après, je m'y connais pas des masses.
Bah justement, le truc qui est rigolo, je suis très content d'être au Québec pour ça aussi. Parce que comme il y a beaucoup de gens sur le marché, le but c'est d'aller, enfin, en tant que microbrasserie, pour sortir du lot ou en tout cas être remarqué, c'est de faire des choses extrêmes, tu vois.
Ouais.
Donc là, notamment, aujourd'hui, il y a des Brew Juice qui sont des bières avec énormément de fruits. Et là, il y a un danger derrière, c'est que avec tout ce fruit-là, ça fait beaucoup de sucre, des sucres et des levures, ça fait de la fermentation, ça fait du gaz, de la pression, et donc des bombes à retardement. Donc faire des brew juice safe, c'est vraiment compliqué à faire. Mais donc il y a ça, il y a tous des IPA où c'est des bières, ils mettent énormément de houblon, et à la fin c'est très green, il y a encore un vrai aspect tige, un peu piquant du houblon qui est trop là. Et après, dans les bières noires, le fait de faire des bières noires, c'est de faire des bières noires très sucrées, des pastry stout, c'est un type de bière comme ça où ils mettent du chocolat, du caramel, comment on appelle ça la dernière fois, c'était des peanut butter, tous les trucs comme ça. En plus, ça donne du corps, du gras à la bière, mais après, dès que c'est gras, il y a plus de mousse, ta mousse, elle est niquée, et c'est ultra lourd à chaque fois. Et moi, c'est vrai que c'est pas des bières que j'ai envie de faire. Moi, j'aime bien la bière où t'en bois une, t'as envie d'en boire une autre.
Ok. Donc, mais donc, comment on fait, quand tu crées ta bière, comment tu réfléchis à ce que tu vas mettre dedans?
Bah en fait, là,
au-delà de la base.
Je suis encore un piou-piou dans le monde de la bière et de la confection des recettes. Donc, je me pose la question de quel style de bière j'ai envie de faire, d'aller développer un petit peu, d'aller chercher l'histoire de chacune des recettes de bière. Parce que là, le truc qui est vraiment chouette, c'est que c'est un monde à part entière et que t'as une flopée de bières différentes avec des histoires particulières et des manières de faire sur la recette. Donc, moi, pour l'instant, je m'inspire d'une bière que j'ai envie un petit peu de refaire. Et j'écris ma recette et j'ai la chance d'être dans une microbrasserie où j'ai accès à plein de grains différents, des grains spéciaux, ouais, des houblons à bon prix. Donc là, je m'en donne à cœur joie aussi pour brasser à la maison et je fais ce genre de choses. Donc là, celle que tu bois, c'était une porteur. Je voulais faire une porteur un peu foncée où j'allais chercher du chocolat. Moi, j'ai répondu à peu près à ce que je voulais, mais elle n'est pas excellente. Dans le sens là où toutes les bières que je fais, je me pose la question, est-ce que c'est des bières que je sortirais et je serais fier de sortir dans ma future microbrasserie. Okay. Là, pour l'instant, j'ai deux recettes qui ont passé le test. Une milk stout. Et une extra special bitter. Donc milk stout, c'est il y a beaucoup de milk stout qui sont un peu lourds aussi et durs à boire. Une milk stout, qu'est-ce que c'est? C'est une bière noire vraiment très foncée aussi. On va chercher du côté un peu café et torréfié. Et le côté milk, ça veut dire qu'on a mis du lactose dedans. Lactose, c'est un sucre qui est pas fermentissible, c'est-à-dire que les levures, elles peuvent pas y toucher. Et du coup, ça donne un côté un peu crémeux, onctueux à la bière. Elle a plus de corps.
Okay.
Donc la différence qu'on dit une bière qui a du corps par rapport à une bière qui est sèche, c'est la quantité d'alcool résiduel. Cette quantité d'alcool résiduel, quantité de sucre résiduel. Et ce sucre résiduel, en général, c'est des sucres qui sont pas fermentissibles par les levures qui restent.
Ok, putain, du lait dans les bières, ouais, ça doit être quelque chose. Ça doit être super doux, je sais pas, crémeux, non?
Ça donne un peu cet aspect-là. Après, ça reste de la bière et c'est pas autant qu'un café au lait, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Mais on va chercher un peu cet aspect-là, ces notes-là et ce truc-là. Et donc là, c'est ma première bière que je sortirai. Ce sera une mixed out. Elle s'appellera Chat Noir.
Ah oui, il y a déjà tout qui est... Ouais, en plus, c'est le chat qui est à côté de nous, là.
J'ai deux chats aujourd'hui, c'est deux chats noirs, et donc il y a un petit lien par rapport à ça aussi, et dans le sens aussi que Serge, là, mon chat, c'est lui qui a fait ses yeux vétérinaires avec moi, il y a une grande histoire d'amour, et un petit hommage comme ça, un petit hommage pour...
Donc là, parfaite transition pour savoir... Donc là, on est à Montréal, mais je sais que tu m'as dit que t'allais quitter dans pas longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu prépares pour la suite?
Pour la suite, je pense que l'horizon 2022-2023, idéalement, sera plus peut-être 2023, avoir ma microbrasserie dans le Pays Basque. Et là-dessus, comment ça s'appellera? Ça s'appellera la ménagerie.
Et tout qui est prêt, en fait. Là, tu dis que c'est 2023, mais pourquoi pas le faire en 2021? Parce que... t'as les bières, t'as le nom, t'as le chat, t'as tout.
J'ai tout. J'ai juste l'emplacement et une bonne connaissance du territoire basque aussi, parce que j'ai déjà été en vacances là-bas, c'est un territoire qui nous fait rêver et on veut y aller pour les vagues, la mer, la montagne, la culture, les gens. Mais par contre, on ne connaît pas du tout le territoire aussi, donc si on l'ouvre au mauvais endroit, c'est un peu niqué. Il faut aussi avoir comme... juste ouvrir à un endroit où personne ne te connaît, je pense qu'il y a un aspect cœur et humain qui est ultra important dans les entreprises, mais encore plus pour ces petites entreprises-là qui commencent. Avoir une base de relations sociales à peu près solide aussi. Genre quand j'entrerai, je sais pas si je ferai peut-être du rugby ou dans un des clubs de sport, mais vraiment le but d'avoir faire partie d'un groupe social avec des gens.
T'intégrer socialement au territoire.
Parce que là, arriver juste comme un cheveu sur la soupe, tu connais personne, tu te mets à un endroit, l'endroit est intéressant financièrement, mais à la fin, c'est un endroit, il y a pas d'achalandage, personne te connaît, tout le monde s'en fout. Donc je pense qu'on se laisse le temps de bien découvrir la région, d'avoir un plan précis de bataille un peu plus dans la tête.
Okay.
Là, j'ai déjà contacté quelques équipementiers de brasserie pour savoir. En fonction de la taille que je voudrais, parce que moi ça serait peut-être entre 300 et 500 litres la salle de brassage. À combien ça s'élève une brasserie comme ça, quoi. Donc là oui, j'essaie de commencer à mettre des chiffres vraiment et d'aller un peu plus loin là-dessus. Mais ouais.
C'est un investissement aussi, c'est un investissement financier, hein. pas qu'en temps. Ça tu le prépares depuis longtemps,
Ça fait un petit bout que j'y pense. Là les questions que j'ai eues même en arrivant ici aussi, c'est quel modèle de brasserie tu veux? Parce qu'il y a des modèles qui sont vraiment des brasseries, ils vendent toutes par des détaillants, du B2B, entre guillemets. Il y en a qui font tout en B2C. On peut penser à The Frog, peut-être à Paris, qui est très connu aussi, où ils font tout sur place, ils vendent tout sur place. Il y a même les trois brasseurs, c'est ce modèle-là aussi, mais après ça s'est développé en chaîne, ce qui est aussi des modèles intéressants qui sont rigolos à étudier. Et après, il y en a des un peu hybrides, dans le sens où ils ont un salon de dégustation sur place et une grande partie qui est vendue à l'extérieur. Plus ou moins grande partie, des fois il y a même des brasseries qui vendent la plus majeure partie sur place, le reste ils le vendent en keg à d'autres restaurateurs, mais ils le vendent pas directement en bouteille chez des détaillants ou des supermarchés, des épiceries. Donc là dessus il y a plein de modèles différents, et qu'est-ce que moi je veux au départ? Là moi le modèle que auquel ce que je veux pour l'instant là c'est toujours des choses qui peuvent évoluer, hein, encore un peu le temps toujours, et il faut toujours mettre en question les choses, mais ça serait un modèle hybride entre le brewpub nord-américain.
Entre le
brewpub nord-américain.
C'est-à-dire, c'est quoi ça?
Un brewpub nord-américain, bah, c'est vraiment ça aussi, où t'as la brasserie, t'as le salon de dégustation sur place,
ouais.
Et t'es surtout là pour boire des bières, prendre des 4 packs et rentrer chez toi.
Okay.
Et quasiment tout est vendu par là, et ils vendent un peu à l'extérieur. Mais c'est vraiment ce modèle-là, brewpub nord-américain,
okay.
Que j'ai en tête. Et vraiment, l'aspect salon de dégustation où tu viens pour boire ta bière, prendre ton 4 packs et rentrer chez toi. Mm-hmm. Ça, c'est quand même rigolo. Ces modèles hybrides entre ça, le côté, l'esprit des tapas espagnols. Donc là, le côté partage, tu y vas aussi pour casser la croûte avec des bons produits, des trucs comme ça et tout, et en partageant avec d'autres
gens. Surtout un Pays Basque en plus, mine que c'est culturel.
Ça vient pas de n'importe où non plus. L'aspect aussi, au niveau de la décoration, les bars à cocktails cubains. Genre les trucs très chargés aussi, un petit peu les années 50-60, et beaucoup, beaucoup de végétation. Et là-dedans, c'est un moyen parfait pour cacher des animaux.
J'ai l'impression que... Ah, tu veux mettre des animaux...
Ouais, la ménagerie, ça peut passer pour rien. Et après, la dernière chose, c'est aussi vraiment l'aspect cuisine française. C'est-à-dire que là, les tapas, c'est des trucs un peu travaillés, c'est pas juste une tortilla, c'est peut-être une tortilla avec quelque chose. Là même, on a bien cuisiné à la maison aussi, et il y a un plat que je serais très ravi de pouvoir faire aussi, je sais pas encore le format, la quantité, mais c'est une sorte de millefeuille avec des... millefeuille de champignons à huile de truffe.
Donc t'aimes bien aussi la restauration, il y a un côté cuisine, ouais. Il y a un côté accueil, il y a un côté chaleur.
Là, tu vois, même là derrière moi, il y a quelques alcools aussi.
Je les ai vus tout à l'heure.
En France, c'est beaucoup plus garni que ça. On en a là-bas aussi dans la cuisine, des alcools forts pour faire des cocktails. Mais j'adore la bière, c'est vraiment incroyable et c'est facile à faire et c'est super chouette. Bon, on adore aussi le vin, on adore aussi les cocktails, c'est vraiment ultra chouette. Et il y a une ambiance particulière aussi quand la personne travaille devant toi pour le faire. C'est du spectacle aussi, juste ça, tu vois. Et donc, tout cet esprit-là, pour beaucoup de gens, à chaque fois aussi, tout le monde a des rêves, tout le monde fait « moi, j'aimerais bien faire ça, moi, j'aimerais bien être une grande avocate, une grande psychologue, j'aimerais bien avoir d'autres choses, j'en sais pas. » Enfin, là, moi, c'est des choses aussi qui sont juste dans ma tête, que j'essaie de préciser, de faire de l'avant. Mais ouais, j'aimerais bien qu'un jour ça se réalise, j'espère que ça se fera, parce que pour l'instant, j'ai dit que je serais vétérinaire, j'ai été vétérinaire, j'ai dit que je ferais une école de commerce, j'ai fait une école de commerce, j'ai dit que j'irais dans le brassicole, j'étais dans mon brassicole, là... J'espère que ça va continuer cette...
Et c'est quoi ton rêve, chance, c'est quoi le rêve final, ultime, je sais pas.
Le rêve final ultime, on attaque les choses très profondes, j'aime ça. Le rêve final ultime, en vrai, c'est de créer. En fait, là, moi, le truc qui fait triper, c'est de créer et créer des choses qui marchent à peu près tout seul et qui sont ensuite, les gens qui travaillent dans ça et autour de ça, ça leur appartient aussi. C'est-à-dire que, j'ai pas un sentiment de propriété ultra élevé, moi, ça fait plein de trucs que j'aime créer, mais après, derrière, prendre la décision et dire en sorte, ça va dans cette direction, j'aime ça. Mais après, là, si des gens qui travaillent dans ton entreprise et, ou dans l'univers que tu as réussi à créer et qui commence à leur appartenir aussi, que l'entreprise, ça leur appartient aussi un petit peu dans le cadre social et culturel. Ça, c'est la plus grande érection de ma vie, je pense. Ça se passerait. Et mine de rien, la BNVA, la Brasserie Nationale Vétérinaire d'Alfort, ça existe toujours aujourd'hui. Avec le Covid, je pense que ça prend un sacré coup, mais les bidochets que j'ai vu passer dernièrement sur les réseaux sociaux de l'école vétérinaire d'Alfort, ça a toujours du grand succès. Et la jeune entreprise... Ça marche toujours du tonnerre aussi, là. Ça s'est vachement développé par rapport à ce que j'étais. Ça n'a plus rien à voir par rapport à ce que j'ai, par rapport à mon temps. Mais ça marche toujours. Donc, faire ce genre de choses, qu'il y a deux gens qui s'en occupent et qui mettent une autre impulsion, c'est ultra chouette. Donc, là-dessus, ouais. C'est le fait de créer un truc qui marche tout seul.
Justement, par rapport à la Covid, tu l'as mentionné, on sait pas, en fait, ce qui va se passer. On sait pas si la consommation des gens va changer. On sait pas si les gens vont autant retourner au restaurant qu'avant. Même si j'imagine que oui, mais il n'y a rien de peut le prévoir.
Ouais.
Est-ce que toi, ça a impacté ton projet ou ton idée du projet ?
Ça a impacté mon projet, surtout dans le sens où... c'est vrai que là, c'est vraiment un modèle où les gens doivent venir et tu crées un microcosme où les gens ont envie de s'installer, s'asseoir, prendre à manger et à boire. Donc, pour la période de Covid, on va dire que c'est compliqué. Mmh. Donc là-dessus, c'est évident. Mais du coup, ouais, là pour l'instant, moi, comme c'est dans le futur,
ouais, tu t'es
dans
pas
le turfu,
tu verras encore...
Ça ira mieux, je croise encore les doigts pour que ça ira mieux un jour. Mais c'est vrai qu'après, si j'arrive à identifier un impact durable là-dessus, ça peut remettre en cause aussi certaines choses là-dedans. On peut faire de la bière différemment, ou de la servir différemment, ou faire la chose différemment. Mais là, de ce que je vois de mes amis, de mon entourage, il y a comme une sacrée envie de pouvoir retourner dans ces
lieux
de partage et de vivre ensemble.
Ouais. Non, est-ce que je pensais à la livraison, forcément, on en parlait avant. Après, je pense que la livraison va plutôt concurrencer le fait d'aller au supermarché.
Ouais.
Plutôt que d'aller au restaurant. J'ai l'impression que c'est quand même pas la même expérience d'aller au restaurant et de se faire livrer le restaurant.
Je suis bien d'accord.
Moi, je me fais livrer parce que j'ai la flemme d'aller faire les courses, mais j'aime toujours autant, même si j'y vais plus, j'aime toujours aller autant au restaurant. Je pense que ça pourra pas remplacer cette envie-là. Après, c'est une question de budget, comment les gens vont allouer leur budget.
Ouais.
Mais dans ton parcours, il y a une chose. Je sais pas si t'as écouté ce discours de Steve Jobs à Stanford, Connecting the Dots.
À posteriori.
Ouais, c'est ça. Plus tard, j'ai ce truc en tête. Donc, si vous l'avez pas écouté, il y a la conférence de Steve. Pas la conférence, c'est un. Je pense, que, je sais pas, c'est une cérémonie
c'est
remise de
remise diplôme.
De diplôme où il fait un discours qui est, je pense, son plus beau discours. Et il parle de connecting the dots, donc connecter les points entre eux. Et toi, c'est vétérinaire, donc rien à voir avec la bière. Mais au final, bah, on arrive à tout lier ensemble. La junior entreprise, la bière et le vétérinaire. Je trouve ça plutôt beau. Et au final, même si on s'en rend pas forcément compte quand on est dedans, bah, au bout d'un moment, tout arrive à être lié en un même point. Mmh. Et c'est ça qui fait aussi ta spécificité. Où je pense qu'il n'y a pas grand monde qui était vétérinaire, qui a fait une jeune entreprise, une école de commerce, qui se retrouve à vendre de la bière. Je trouve que c'est assez unique quand je te parle.
Je pense qu'on n'est pas nombreux, en effet.
Ouais, je pense que vous n'êtes pas nombreux. Et il y a une question que je me pose depuis tout à l'heure aussi. Vous êtes deux dans l'histoire, donc vous êtes en couple. Je sais que donc on parlait tout à l'heure qu'elle disait qu'elle travaillait chez Danone, donc en marketing. Les Pays Basques, c'est un endroit où je me dis il y a beaucoup moins d'opportunités dans ce domaine-là, dans le domaine du marketing et du business. Comment vous faites pour allier un projet ensemble à cet endroit-là? Est-ce qu'il n'y a pas des questions qui se posent sur quel métier elle va faire, ou est-ce que vous voulez faire ça ensemble?
Bah, enfin, je pense que l'une grande force de notre couple, et j'ai de la chance d'être avec Annaëlle, c'est qu'on a plein de projets, on a une même vision commune, on a plein de projets en commun aussi. Après, à des niveaux d'association peut-être plus ou moins différents, mais on se nourrit l'un et l'autre par rapport à plein de choses. Et donc, même Annaëlle, là, elle travaille chez Danone aujourd'hui. Dans le marketing, c'est vrai que c'est pas un poste qu'elle pourra forcément retrouver au Pays Basque, parce que la plupart le marketing c'est dans les sièges que ça se passe. Ça sera soit à Lyon, soit à Paris, donc ça va forcément pas faire ça quand on va rentrer en France. Mais là-dessus, elle a d'autres ambitions aussi, elle a d'autres choses qu'elle veut faire qui l'intéressent à fond. Là même dans le côté microbrasserie, il y a des choses où ça lui plairait de travailler complètement. Donc on risque de travailler ensemble sur.
Je suis sûr, elle a un savoir-faire qui peut compléter le tien.
Mais exactement. Je trouve qu'elle est très forte sur plein de choses et même là-dessus, enfin, plus que juste en couple, même professionnellement, je pense que il y a des choses qu'on peut faire ensemble qui seraient ultra chouettes. Donc après, bah, c'est le danger de travailler ensemble dans un couple aussi. Là, je pense que c'est pas forcément.
On pourra faire un podcast dans 2 ans, peut-être.
Exactement. On pourra en sur parler, ce sujet-là. Mais c'est que là, de travailler, que ce soit en famille ou en couple, il y a toujours des choses un peu particulières où il faut quand même prendre des pincettes pour, si jamais ça se passe mal, pas faire voler à la fois en éclat le professionnel et le familial.
Ouais.
Donc, ça, c'est des choses qu'on a conscience et on essaiera peut-être de faire attention à ça. Mais pour l'instant, sur tous les projets ici qu'on a fait, enfin l'appartement en tant que tel aussi, là où on est aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on a fait tous les deux. On adore, enfin, parler de travail manuel juste pour faire les essais, mais c'est vrai que des fois ça fait du bien. On a tué plein de choses ici qui sont construites, qu'on a construites tous les deux, qu'on a retapé, et ça s'est bien passé. Et à la fin, ça correspond à peu près à ce que nous on voulait faire. Et à chaque fois que les gens viennent ici, des fois ils sont contents, ils disent c'est sympa, ça vous avez trouvé ça où, etc. Ça on l'a fait nous-mêmes. Et du coup, c'est quand on a travaillé tous les deux, ça s'est bien passé.
Okay.
Et je croise les doigts pour que ça continue.
Il n'y a pas de problème qui se pose par rapport à ça.
Bon, il y a déjà eu des petits trucs ici et ça, évidemment, là. Là, notamment, là, si on creuse un petit peu. Là, moi, c'est dans ma conception des choses aussi. Pour être dans le capital d'une entreprise, il faut forcément être indispensable. Moi, la microbrasserie, je sais que je vais la faire tout seul, etc. Et du coup, la question s'est posée de savoir si on lançait la microbrasserie tous les deux, avec départ au capital tous les deux. Et du coup, on a longuement discuté et tout. Et à la fin, moi, je sais que je vais lancer, elle n'est pas non plus indispensable à Naël, et du coup, elle ne sera pas au capital, elle a d'autres choses à faire aussi, elle a plein d'autres projets, et même un truc comme ça, je trouve ça même plus sain aussi que si jamais elle n'est pas attachée à l'entreprise, dans le sens où elle est propriétaire aussi à l'entreprise, peut-être qu'elle ira plus rapidement faire ce projet à elle, qui l'excite tout autant, et même peut-être plus, et pour qu'elle. Qui nous laisserait peut-être aussi après plus d'air de manière personnelle entre nous deux, à faire des choses qui nous intéressent, à se nourrir tous les deux par rapport à nos aventures professionnelles. Plus que d'être tous les deux avec un même bébé encore, qui soit professionnel, et non plus les petits bébés qu'on fera tous les deux plus tard.
Ouais.
Je pense que ça, séparer un petit peu comme nos univers et notre monde, pour pas qu'on soit tous les deux tout le temps ensemble, ça peut créer des étincelles si on se frotte trop fort.
Ouais, après ça, chacun sa vision, mais effectivement, j'ai un peu la même idée que si on est trop ensemble, aussi avec ma copine, ça peut créer des étincelles et faire tout péter, donc c'est bien que chacun. Tu sais, un coup pour moi, c'est aussi la somme de deux individus séparés, donc c'est important que chaque individu ait sa place et son projet.
Complètement.
Et y a des questions que je pose toujours en fin de rencontre. L'une d'elles, c'est quel conseil tu te donnes à toi-même pour le futur?
Quel conseil je me donne à moi-même?
En fait, avant, la question, c'était quel conseil tu te donnes à l'étudiant que tu étais?
Ah.
Et je me suis dit, mince, finalement, pourquoi pas aujourd'hui, là, pour ton futur, pour réussir tes projets, quel conseil tu te donnes à toi-même? Comment Comment tu conseilles?
Difficile d'y répondre. L'ancienne version, c'est quel conseil j'aurais donné à quelqu'un, enfin, un mois plus jeune.
En vrai, ouais. Ou un jour, bah, tu vois, quel conseil tu donnes à la personne que de hier?
De hier. Juste... En vrai, un truc comme ça, le... je sais pas, parce que moi, j'ai le sentiment, mes études, enfin, elles sont reconnues, enfin, ça fait le parcours typique, ce qui fait qu'on parle tous les deux aujourd'hui. Si j'avais pas fait ça, bon, on serait pas là tous les deux. Mais à quoi ça me sert véritablement aujourd'hui, tout ça, là, je sais pas. En vrai, non, c'est une bonne question, dans le sens où j'en ai aucune idée, là. Qu'est-ce que je me donnerais, qu'est-ce que tu veux faire, enfin. Bon, c'est peut-être de pas lâcher, de faire en sorte que ce que je veux, ça fonctionne à nouveau, quoi.
Ok.
Continue, Ludovic. Continue.
Tu penses pour Rémi. D'ailleurs, ouais, Rémi et Céline qui nous ont permis de nous rencontrer.
Merci.
J'espère qu'ils écouteront l'épisode et je leur fais un bisou. Et une autre question, c'est quelles sont les trois valeurs de Ludovic? Quelles sont les trois valeurs qui te guident dans la vie?
Très bonne
trois
question.
Trois ou deux ou quatre ou les valeurs qui te guident?
Je pense à la curiosité, la première. Qui doit peut-être être la tienne aussi, je sais pas.
Ça, c'est mon titre sur LinkedIn. Je savais pas quoi mettre. J'ai mis curiosité.
Le côté persévérance aussi, mine de rien. Curiosité, persévérance, après en tout cas avec le cœur, enfin, le fait de prendre du plaisir. Plaisir, je pense, ouais. Peut-être même plaisir en premier, parce que plaisir et curiosité, c'est peut-être associé. Mais le but derrière tout ce qu'on fait, je pense, c'est de prendre du plaisir. Et après, quand il y a beaucoup de plaisir, on arrive peut-être à créer du bonheur.
Mais ça représente bien ton parcours. Merci beaucoup pour cette rencontre.
Merci Marvin d'être passé, c'est vraiment super chouette. Merci.
Et on se retrouvera dans un an ou deux dans les Pays Basques, peut-être autour de tapas et d'une bonne bière encore.
Exactement, il y a un petit tour en surf après.
Ce podcast étant une histoire commune entre ses auditeurs et ses invités, je voulais vous remercier pour votre écoute. Aussi, vos notes, commentaires ou encore le bouche à oreille sont au cœur de la réussite de cette aventure. N'hésitez donc pas à partager votre avis.